Donc, conférence du 28 janvier 2023 à la bibliothèque Niméaire du Havre sur la question de la peine de mort à partir de la lecture du traité des délits et des peines de Cesare Beccaria paru en 1764. Un État peut-il légitimement condamner à mort un homme et le faire exécuter parce qu'il a commis un crime? Alors c'est la question donc que nous allons aborder lors de cette petite conférence, ou pour le dire, si vous voulez, plus simplement, la peine de mort est-elle légitime? Donc je m'appuierai sur la lecture du philosophe italien Cesare Beccaria, traité des délits et des peines, paru la première fois en 1764, et plus particulièrement sur celle du paragraphe 28 de ce traité qui est consacré à l'examen de la peine de mort. Donc vous avez le plan et vous avez les extraits. Alors pourquoi lire Beccaria? Parce qu'il peut être considéré comme le père de l'abolitionnisme. Mais avant d'aborder sa lecture, je voudrais d'abord introduire la question, puis bien sûr dire quelques mots sur Beccaria, établir une brève histoire de l'abolition de la peine de mort en France, faire le point sur la question telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le monde, et indiquer enfin pourquoi l'abolitionnisme est une position fragile. Alors, on sait bien, des protestations indignées contre la peine de mort sont insuffisantes. Elles sont bien faibles pour justifier sa condamnation. Il ne suffit pas de dénoncer le caractère meurtrier de la peine de mort pour en établir la barbarie. Parce que sur le terrain des affects et des sentiments, l'abolitionnisme, c'est-à-dire au fond la position de ceux qui revendiquent l'abolition de la peine de mort, l'abolitionnisme se heurtera toujours au cri de la souffrance des proches d'une victime sauvagement assassinée. Tout être humain qui perd l'un des siens par le crime d'un autre, sans monter en lui le désir que cet autre périsse à son tour. C'est là une réaction bien humaine. On sait aussi qu'au-delà des proches, le crime suscite une émotion collective et que celle-ci peut conduire souvent à revendiquer la peine de mort pour l'assassin. L'abolitionniste ne peut donc pas se contenter d'une conviction immédiate fondée sur la répulsion que lui inspire la peine de mort. Il doit réfléchir aux raisons pour lesquelles elle est souhaitée. Il doit montrer pourquoi cette peine est inacceptable, par principe, et quel que soit le crime. Il doit enfin s'affronter à l'argument qui est le plus souvent utilisé pour la justifier, l'argument de son utilité répressive. Alors, vous avez le plan et des textes que je mets à votre disposition. On vient à peine de commencer. Donc, voilà ce qu'il doit faire, l'abolitionniste. Or, c'est précisément ce que fait Beccaria, comme on va le voir. Et c'est pour ça qu'il est considéré comme le père de l'abolitionnisme. Et c'est à lui, notamment, que fait référence Robert Badinter, dans son ouvrage « L'abolition » qui est paru en 2000. Je l'ai ici. Robert Badinter met en exergue une citation de Beccaria, extraite de son paragraphe 28. Je cite « Si je prouve que cette peine n'est ni utile ni nécessaire, j'aurai fait triompher la cause de l'humanité. » Alors, qui est Beccaria ? Donc, comme je l'ai dit, c'est en 1764 qu'il publie la première fois le traité des délits et des peines. Et Cesaria Beccaria est alors un jeune Milanais qui a tout juste 26 ans au moment de sa publication. C'est un docteur en droit. Il est nourri de la lecture des philosophes français Montesquieu et Rousseau. Et dès sa parution, son ouvrage connaît un succès considérable en Europe. Sa lecture fait forte impression sur Voltaire, qui contribue d'ailleurs beaucoup à sa diffusion, en lui consacrant en 1766 un commentaire. Alors, si le traité de Beccaria est lu avec beaucoup d'intérêt à la fin du XVIIIe siècle, Robespierre est un admirateur de Beccaria, c'est surtout en raison de sa réflexion novatrice en matière de justice pénale. Son traité va inspirer des projets de réforme. Mais ce n'est pas vraiment la position abolitionniste de Beccaria qui retient l'attention, du moins en France. Rares sont en effet à l'époque les penseurs convaincus par la nécessité d'abolir la peine de mort. Ainsi, par exemple, Voltaire. Voltaire veut restreindre l'application de la peine de mort aux seuls crimes sanglants, mais il n'en condamne pas le principe. Et c'est en Italie, plus précisément en Toscane, que la position abolitionniste de Beccaria est entendue, puisque c'est en 1786, 22 ans après la publication du traité de Beccaria, que la peine de mort est pour la première fois abolie. Quant à la France, le premier débat officiel sur la peine de mort a lieu le 30 mai 1791. Un projet de loi visant à abolir la peine de mort, défendu par Robespierre, est présenté à l'Assemblée nationale constituante, mais il n'est pas adopté. La constituante supprime en revanche la torture et uniformise la méthode d'exécution par la guillotine. Ainsi, avant 1791, la peine capitale était appliquée en France selon des modalités différentes en fonction de la nature du crime et de la condition sociale du condamné. Les nobles étaient décapités à l'épée ou à la hache, les voleurs étaient pendus, les hérétiques étaient brûlés, les bandits de grand chemin subissaient le supplice de la roue. À partir de 1791, plus exactement à partir de la loi du 6 octobre 1791, la torture est supprimée et la même méthode d'exécution est appliquée à tous par la guillotine. Seuls les militaires font exception à la règle, ils sont fusillés pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, le 26 octobre 1795, la Convention nationale abolit la peine capitale, mais seulement, je cite, à dater du jour de la publication de la paix générale. Autant dire qu'on peut attendre. Cette clause va permettre à Napoléon de la faire rétablir en février 1810, bien qu'elle n'ait de fait jamais été abolie. Il y a bien quelques tentatives d'abolition de la peine de mort à la Chambre des députés entre 1906 et 1908, mais elles échouent en raison de la pression de l'opinion publique. Et il faut attendre, comme vous le savez, septembre 1981, pour qu'une majorité de députés vote l'abolition. La France est alors l'un des derniers pays d'Europe occidentale à abolir la peine de mort, avec la Suisse et le Royaume-Uni, qui l'abolissent respectivement en 1991 et 1998. Alors, qu'en est-il aujourd'hui dans le monde ? Pas seulement en France. L'abolition a fait des progrès considérables, puisque les États qui l'ont promulguée sont devenus largement majoritaires. Et selon les rapports d'Amnesty International, les États qui y recourent le plus sont d'abord la Chine, et encore, on ne connaît pas tout, parce que c'est tenu au secret, puis l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Syrie, je ne continue pas la liste, et on se souvient que dans la presse, on avait pu lire il y a 2 ans, qu'il y avait eu en Arabie saoudite 81 décapitations en une journée. Public. Les États qui pratiquent la peine de mort sont le plus souvent des dictatures et aussi parfois des théocraties, c'est le cas de l'Arabie saoudite. La condamnation à mort y est prononcée pour souvent éliminer des opposants politiques, mais aussi pour punir des crimes de sacrilège, l'Iran, l'Arabie saoudite. On exécute encore parfois pour des délits qui n'ont rien à voir avec des crimes de sang, comme le seul usage de la drogue, c'est le cas en Iran. Et dans ces pays, les exécutions capitales vont de pair le plus souvent avec un système judiciaire complètement opaque. Des hommes sont condamnés à mort à l'issue de procès truqués et parfois sur la base d'aveux arrachés sous la torture. Mais on aurait tort de penser que la peine de mort est pratiquée seulement dans des dictatures. Elle l'est encore, on le sait, dans des États reconnus comme démocratiques. Alors, c'est, je crois, j'en suis pas absolument certain, même c'est le cas du Japon. Ceci dit, il y a des pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, mais qui ne la pratiquent plus. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai aussi, bien sûr, dans un certain nombre d'États, des États-Unis d'Amérique, comme le Texas, la Louisiane, la Californie et quelques autres. Alors, certes, les exécutions capitales y sont prononcées et administrées sous une forme plus acceptable. L'injection létale vise par exemple à rapprocher la peine de mort d'une procédure médicale. Mais on a beau faire, l'injection létale n'élimine pas la souffrance, encore moins d'ailleurs la chaise électrique. Et surtout, les condamnés à mort attendent leur exécution souvent pendant plus de 20 ans dans ce qu'on appelle les couloirs de la mort. Alors on peut se féliciter que l'abolition ait fait des progrès dans le monde. La peine de mort tend à disparaître dans les États démocratiques. Mais il faut aussi reconnaître qu'une part de l'opinion publique demande son rétablissement. Elle demeure récalcitrante à l'idée d'en finir absolument avec elle. Donc la question de son rétablissement est encore parfois agitée comme un argument de campagne électorale. Et on sait bien qu'après un crime particulièrement monstrueux et retentissant, surtout quand il touche des enfants, ou encore après des attentats terroristes, il suffit d'organiser des sondages pour montrer qu'une large fraction de la population est favorable à la peine de mort. Alors l'argument le plus souvent mis en avant pour justifier son rétablissement, c'est celui de son utilité répressive. La peine de mort aurait une valeur exemplaire et dissuasive. Jamais pourtant la peine de mort n'a fait reculer la criminalité, jamais elle n'a dissuadé les criminels de tuer, et d'ailleurs c'est comme on le verra ce que faisait déjà observer Beccaria. Jamais non plus l'abolition de la peine de mort dans les pays où elle a été promulguée n'a entraîné une augmentation de la criminalité. Mais on a beau établir ces faits, les partisans de la peine de mort persistent à affirmer son utilité répressive. Alors il est donc temps maintenant d'aborder le fond du problème et de lire Beccaria. Alors je rappelle le problème qu'il nous faut traiter. L'État peut-il légitimement condamner à mort un homme et le faire exécuter parce qu'il a commis un crime, ou s'agit-il seulement là d'un assassinat public, selon l'expression de Beccaria. Donc, première partie. Le droit pénal implique-t-il le droit de donner la mort? De quel droit un État peut-il tuer un homme parce que celui-ci a tué? Qu'est-ce qui l'autorise à lui infliger la peine de mort? Ce qu'on appelle le châtiment suprême. Le problème est de nature politique. Et on voit d'emblée que la question de la peine de mort s'inscrit dans le cadre général d'une réflexion sur le droit de punir qui appartient à l'État. Oui, ce droit appartient à l'État car un crime n'est pas une offense privée qui se règle entre des particuliers. Toute atteinte à la sécurité individuelle est une atteinte à la communauté des citoyens dans son ensemble. Ainsi, le crime est une offense publique à laquelle l'État doit répondre en infligeant un châtiment au coupable. Le problème est de savoir jusqu'où peut s'étendre le droit de punir qui relève de l'autorité de l'État. Le droit de punir de l'État, ce qu'on appelle le droit pénal, implique-t-il la peine de mort? Alors, jusqu'à Beccaria, il est admis que le souverain, c'est celui qui détient l'autorité de l'État, quel qu'il soit, que ce soit un monarque ou le peuple. Donc, jusqu'à Beccaria, il est admis que le souverain dispose du droit de vie et de mort. Et ce droit est présenté comme un attribut essentiel de sa souveraineté. Dans la mesure où le droit pénal est le moyen pour le souverain d'affirmer son autorité afin de maintenir l'État et de conserver l'ordre social, eh bien il peut aller jusqu'à recourir à la peine de mort s'il le juge nécessaire. Le droit pénal, donc qui contient le droit de vie et de mort, c'est l'instrument dont dispose le souverain pour se défendre contre la violence des individus qui le menacent par leurs crimes. Et le châtiment se joue ainsi entre deux puissances. C'est un face-à-face qui oppose d'un côté donc la puissance du souverain, lequel délègue son pouvoir de juger au magistrat et son pouvoir d'exécution au bourreau, et puis de l'autre côté, la puissance du criminel qui peut apparaître comme un ennemi du fait de son crime. Alors, juste une petite parenthèse, même s'il est très critique à l'égard des pratiques judiciaires et pénales de son époque, un philosophe comme Jean-Jacques Rousseau ne met pas en cause le lien traditionnellement établi entre la souveraineté et le droit de vie et de mort qu'elle est censée détenir sur les individus. Ainsi, par son crime, comme l'écrit Rousseau dans le livre 2 du Contrat social, paru en 1762, donc 2 ans avant le traité des délits et des peines, eh bien, par son crime, le citoyen malfaiteur, dit Rousseau, se constitue comme ennemi public. Et il est alors une menace pour la société. Dès lors, ajoute-t-il, je cite Rousseau, la conservation de l'État est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Fin de citation. Donc, quand le crime perpétré par le criminel apparaît comme une déclaration de guerre adressée au souverain, bah celui-ci lui répond par le châtiment suprême, qui est assimilable, au fond, à un acte de guerre. Au fond, tout se résume à la logique « ou c'est toi, ou c'est moi ». Dans cette perspective, le criminel est potentiellement un ennemi que le souverain peut avoir intérêt à supprimer. Si nous examinons maintenant l'exercice du droit pénal au XVIIIe siècle, donc du temps de Beccaria et de Rousseau, eh bien on voit que les châtiments infligés aux coupables sont pour beaucoup des supplices. Et comme le montre le philosophe Michel Foucault, au début de son ouvrage « Surveiller et punir », je l'ai ici, hein. Eh bien, comme me montre Michel Foucault dans cet ouvrage, ces supplices témoignent de la puissance du souverain exercée contre le corps des criminels. C'est-à-dire ici, il faut bien remarquer la chose suivante. La peine de mort ne s'exerce jamais de manière isolée. Elle est le dernier terme de toute une série de souffrances méthodiquement et rituellement administrées. Il ne s'agit pas en effet de donner seulement la mort au coupable, il s'agit d'abord et surtout de le faire souffrir au maximum avant de lui donner la mort. Et Michel Foucault parle à ce sujet de la mort supplice. C'est l'expression qu'il utilise, la mort supplice. Loin d'être simplement privation de la vie, cette mort supplice consiste, comme l'écrit Foucault, je cite, « dans un art de retenir la vie dans la souffrance, dans un art de retenir la vie dans la souffrance par le moyen d'une gradation calculée de souffrance. Et dans cette logique, le supplice le plus rigoureux, le plus cruel, celui qui est appliqué au crime le plus grave, à savoir le régicide, eh bien, c'est l'écartèlement. Le régicide est puni par l'écartèlement. Et le livre de Michel Foucault commence par la citation intégrale du récit que fait la Gazette d'Amsterdam, un journal de l'époque, du XVIIIe siècle, le récit que la Gazette d'Amsterdam fait du supplice infligé en mars 1757 à Robert Damien, condamné au démembrement corporel pour avoir blessé d'un coup de canif le corps royal de Louis XV. Et rien ne nous sera épargné dans ce récit. J'en arrive à ma seconde partie. Donc, le droit pénal, Beccaria va le montrer, s'oppose à tout ce que nous venons de montrer. Le droit pénal ne doit avoir comme seule fonction que l'utilité commune. Donc, il faut avoir tout ce que je vous ai raconté à l'esprit pour comprendre combien le propos de Beccaria est novateur. Il constitue une rupture radicale avec ce type de justice pénale que je vous ai décrite. D'abord, pour savoir si le droit de punir du souverain peut s'étendre jusqu'à la peine de mort, il faut se demander pourquoi il est nécessaire et ce qui autorise le souverain à punir. Et pour cela, il faut d'abord se demander pourquoi les hommes se sont unis en société et ont consenti à vivre sous des lois communes, parmi lesquelles il y a les lois pénales. Des lois pénales qu'on appelle au XVIIIe siècle les lois criminelles. Alors, Beccaria va ainsi montrer qu'à la base de la société, il y a ce qu'on appelle un contrat social, et ce contrat social désigne l'engagement que fait chacun des individus qui la composent d'obéir à ces lois pour en tirer avantage, pour tirer avantage de l'obéissance commune. C'est donc un calcul d'intérêt qui conduit chaque individu à conclure ce contrat social. Alors pourquoi y ont-ils tous intérêt ? Eh bien parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans une situation sans règles, sans loi, dans ce que Beccaria, à la suite des philosophes de son temps, appelle un état de nature. L'état de nature, c'est un état, au fond, où il n'y a aucune règle, aucune loi, où chacun agit selon son désir. Si les hommes vivaient en effet exclusivement selon leur désir, ils seraient condamnés à se nuire mutuellement. Chacun d'eux serait exposé à l'arbitraire et à la violence des autres. Chacun agirait comme un despote qui cherche à soumettre les autres à ses caprices. L'état de nature est donc un état de guerre continuelle entre les individus qui les empêche de jouir de leur liberté. Et comme l'écrit Beccaria au premier paragraphe de son traité, dans cet état de nature, qui est un état de guerre, eh bien la liberté, je cite, est rendue inutile par l'incertitude de la conserver. Elle est rendue inutile par l'incertitude de la conserver. C'est donc pour jouir d'une réelle liberté, d'une liberté rendue enfin utile, bien que les hommes ont quitté l'état de nature et se sont unis par un contrat social pour vivre en société, sous des lois communes et sous l'autorité d'un souverain chargé de les faire respecter. Alors ici, je cite Beccaria et vous avez le texte. C'est page 1, en haut à gauche. Vous avez le texte, vous le trouverez. C'est le paragraphe 1, origine des peines, les premières lignes, les 8 premières lignes, je cite. « Les lois sont les conditions sous lesquelles des hommes indépendants et isolés s'unirent en société. Fatigués de vivre dans un état de guerre continuel et dans une liberté rendue inutile par l'incertitude de la conserver, ils sacrifièrent une partie de cette liberté pour jouir du reste avec plus de sûreté et de tranquillité. Fin de citation. Alors ici, tous les termes doivent être pesés. Donc, comme on l'a dit, les hommes ont intérêt à sortir de l'état de nature parce qu'ils sont, je cite, « fatigués de vivre dans un état de guerre continuel ». Ainsi, c'est par calcul d'intérêt qu'ils ont sacrifié une partie de leur liberté, et même Beccaria dira plus loin, la plus petite portion possible de cette liberté, pour jouir du reste de leur liberté, c'est-à-dire du reste de la liberté qu'ils ont gardée. Certes, cette fois, il ne s'agit plus d'une liberté complète, il s'agit désormais d'une liberté limitée, mais c'est la seule vraie liberté dont ils peuvent jouir, car elle est désormais garantie par des lois. C'est une liberté devenue vraiment utile. Alors pourquoi utile? Pourquoi cet adjectif? Eh bien parce que la liberté, c'est la condition sans laquelle on ne peut pas satisfaire ses désirs, on ne peut pas réaliser son bien-être. Et en quoi cette liberté est-elle cette fois une véritable liberté? Eh bien parce que je ne suis vraiment libre que si j'ai la certitude de conserver ma liberté grâce à la protection que me procurent les lois. Je sais alors en toute certitude que nul n'a le droit d'entraver mon action, car je sais que les lois valent pour tous, et je sais que les autres savent qu'ils n'en ont pas le droit. À partir de là, eh bien, on peut comprendre la fonction du droit pénal. Les châtiments sont nécessaires pour empêcher qu'un individu, en commettant un crime, c'est-à-dire en transgressant les lois communes, défasse la société et replonge les hommes dans le chaos de l'état de nature. C'est pourquoi, en cédant une part de sa liberté, eh bien, chacun la confie en dépôt au souverain qui est chargé d'administrer la société et d'en faire respecter les lois. Vous voyez, chacun, au fond, confie cette part de la liberté qu'il abandonne en dépôt au souverain qui va avoir comme mission de faire respecter les lois. Donc, par le contrat social, chacun consent à la possibilité d'être puni s'il transgresse les lois communes. Le citoyen qui désobéit aux lois, celui qui est criminel, celui qui est délinquant ou criminel, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi qui déclare la guerre au souverain. C'est un homme qui cherche seulement à contourner les lois pour soumettre les autres à son intérêt, hein, pour faire triompher son seul avantage. C'est comme le dit Beccaria, vous avez ce texte, c'est à la fin du paragraphe 2, ligne 28-30, vous avez une expression remarquable utilisée par Beccaria. Cet homme, délinquant ou criminel, se regarde comme le centre de toutes les combinaisons du globe. Hein, il fait valoir son intérêt comme le centre du monde, en quelque sorte. Donc, le terme qui convient le mieux pour caractériser le criminel, ce n'est pas le terme d'ennemi, ce n'est pas un ennemi, mais c'est plutôt le terme de despote, et c'est celui qu'utilise d'ailleurs Beccaria. C'est un despote, dit Beccaria, qui usurpe la part de liberté que les autres ont laissée en dépôt au souverain par le contrat social. C'est-à-dire qu'en cherchant en quelque sorte à subordonner la société à son seul intérêt, en cherchant à la faire fonctionner exclusivement à son service, eh bien le criminel fait preuve, comme le dit Beccaria, d'un esprit despotique. C'est l'expression qu'il utilise, ligne 18, hein, au paragraphe 1. Dès lors, il est nécessaire de le punir, car il met en péril l'équilibre social des libertés, et son impunité risque de mener à la dislocation du lien social, pour le grand malheur de tous. Alors, si on comprend que les lois ont pour fin exclusive l'utilité commune, c'est-à-dire la cohésion harmonieuse des libertés, eh bien, les châtiments n'ont d'autre but que de préserver cette utilité commune, cette cohésion sociale. Et comme l'écrit alors Beccaria au paragraphe 12 du traité, alors, vous l'avez en bas de la page, le paragraphe 12, j'ai souligné le passage, ligne 12-16, le but des châtiments ne peut être que d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens et de dissuader les autres d'en commettre de semblables. Ainsi, si on a bien compris, la seule fonction des châtiments est préventive. Un châtiment, c'est une violence, c'est un mal. Mais c'est un mal dont la seule nécessité est de préserver la cohésion sociale. Son but n'est pas de chercher à faire souffrir celui qui a commis un crime. Alors, sans doute, cette conception du châtiment peut-elle paraître insatisfaisante ? Quand nous apprenons à un crime monstrueux, nous souhaitons pour le coupable un mal équivalent à celui qu'il a commis. Nous sommes tentés de considérer que son crime mérite la peine de mort, puisqu'il a ôté la vie à un innocent, à sa victime. Il faut qu'il soit tué. C'est comme ça que nous considérons les choses. Et même, la peine de mort peut nous apparaître parfois trop douce. Nous souhaiterions que le coupable souffre au maximum. Alors, on peut certes comprendre ce type de réaction passionnelle, mais on ne peut aucunement fonder sur une telle réaction la justice pénale. Ou alors, c'est s'enfermer dans une cascade de violences qui menace la cohésion sociale. En tout état de cause, un châtiment ne peut annuler ni effacer un crime. Il ne peut faire que le crime n'ait pas eu lieu. Il ne peut faire que la victime ne soit plus une victime. La seule chose que doit faire le souverain en infligeant un châtiment, eh bien, c'est de considérer l'avenir, car seul l'avenir peut être modifié. C'est vers l'avenir qu'il doit tourner son regard, en veillant à ce que le crime ne menace pas à nouveau la société. Toute autre conception ne peut que déboucher sur un usage tyrannique des châtiments. Et là, vous regardez le début du paragraphe 2 consacré au droit de punir. Je lis juste le début. Tout châtiment, dit Beccaria, tout châtiment qui ne découle pas d'une nécessité absolue, dit le grand Montesquieu, est tyrannique. Évidemment, Montesquieu l'avait déjà montré dans l'Esprit des lois avant Beccaria. Et puis vous avez une deuxième citation aussi qu'on peut faire. Ça, c'est dans le paragraphe 12, celui qui est au bas de la page, le début, ligne 2 à 5. Le but des peines n'est ni de tourmenter et affliger un être sensible, ni de faire qu'un crime déjà commis ne l'ait pas été. Alors, nous pouvons maintenant en venir, ce sera ma dernière partie, à la lecture du fameux paragraphe 28 consacré à l'examen de la peine de mort. Et c'est là que Beccaria va exprimer sa position abolitionniste. Alors, Beccaria va montrer deux choses. D'abord, que la peine de mort est injuste. Elle n'est pas un droit, elle ne peut pas être un droit. Elle est et elle sera toujours, quel que soit le crime auquel elle s'applique, elle sera toujours un crime public. quel que soit le crime auquel elle s'applique. Deuxième chose qu'il montrera ensuite, il montrera que cette peine, non seulement n'a aucune utilité, elle n'a aucune efficacité dissuasive, mais qu'elle est nuisible, notamment par l'exemple qu'elle donne de la cruauté. Alors, voyons d'abord le premier point, la première étape de son argumentation. Voyons d'abord pourquoi la peine de mort n'est pas un droit. Et ici, ce que nous avons dit précédemment va nous servir. Par le contrat social, on l'a vu, chaque homme a renoncé à une partie de sa liberté pour mieux jouir de celle qui lui reste, grâce à la protection des lois. Ainsi, il a accepté la possibilité de subir un châtiment en cas de non-respect des lois. Mais s'il a consenti à faire le sacrifice d'une partie de sa liberté, il n'a jamais pu consentir à faire le sacrifice du plus grand des biens, qu'est la vie. S'il a consenti à faire le sacrifice d'une partie de sa liberté, rappelez-vous, c'est pour avoir l'assurance de sa conservation et de son bien-être. Il serait donc absurde qu'il ait pour cela consenti à confier au souverain le droit de lui donner la mort. Et ici, je cite Beccaria, vous regardez la page 2, lignes 12 à 16. Donc je cite Beccaria, lignes 12 à 16. Or, qui aurait eu l'idée de concéder à d'autres le pouvoir de le tuer? Comment supposer que le minime sacrifice de liberté fait par chacun puisse comprendre celui du plus grand bien, la vie? Fin de citation. Donc, encore une fois, par le contrat social, chacun a consenti par calcul à sacrifier un minimum, mais jamais un maximum. Chacun a consenti à ce qu'un châtiment lui soit appliqué en cas de non-respect des lois, mais il ne peut s'agir que d'un châtiment qui produise un minimum de souffrance, jamais un maximum. En conséquence, l'État, hein, celui qui dirige l'État, rappelez-vous, c'est le souverain, hein, l'État, qui n'a d'autre autorité que celle que lui ont confié les citoyens par le contrat social. L'État ne peut légitimement imposer que des châtiments qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission, veiller à l'utilité commune. Dès lors, un châtiment n'est juste que s'il remplit sa fonction de dissuasion en infligeant à cette fin le moindre mal possible. Et encore une fois, le moindre mal possible ne peut aucunement comprendre la vie, qui est le plus grand de tous les biens. En conclusion, Beccaria peut conclure, regardez les lignes 21 à 24, voilà ce qu'il peut conclure, je cite, « La peine de mort n'est donc pas un droit, je viens de démontrer qu'elle ne peut l'être, mais une guerre de la nation contre un citoyen, qu'elle juge nécessaire ou utile de supprimer. La peine de mort n'est pas un droit. Elle ne pourra jamais l'être, car elle ne peut reposer sur aucun consentement. En conséquence, un souverain qui punit de mort un criminel transgresse le contrat social et abuse de son autorité. Et ce qu'il commet, c'est un crime. Son souci n'est plus alors de préserver l'utilité commune, mais d'affirmer sa puissance de manière despotique, en se faisant craindre par un châtiment cruel. Beccaria est très clair. Quel que soit le crime, la peine de mort n'est jamais légitime. L'État n'a pas le droit de vie et de mort sur les citoyens. Un citoyen devenu criminel ne peut donc jamais être une menace dans un état de droit où, comme le dit Beccaria, ligne 38, sous le règne paisible de la légalité. sous le règne paisible de la légalité. Dans un état de droit, aucun homme, aucun citoyen qui devient criminel ne peut être une menace et traité comme un ennemi. Il ne devient une menace que lorsque l'état de droit s'effondre et que règne la guerre civile. On retourne alors à l'état de nature, hein, qui est un état de guerre, et où seul ce qui compte, c'est l'usage de la force pour vaincre un ennemi. Alors dans ce cas de figure, le citoyen menaçant cesse d'être un criminel qu'il faut punir. Il devient, je répète, un ennemi. Et je cite ici la formule de Beccaria, un ennemi que la nation juge nécessaire ou utile de supprimer. Mais alors, c'est tout autre chose. En l'absence de toute légalité, le remarque Beccaria, on ne peut pas savoir ce qui est juste, puisque la seule justice, c'est celle qui existe dans un état de droit. On ne peut pas savoir ce qui est juste. On ne peut pas savoir ce qui est juste en toute certitude. Le gouvernement, qui est à la tête de l'État dans ce climat de guerre civile, ne peut que croire qu'il est juste de recourir à la peine de mort contre un citoyen qu'il perçoit comme une menace pour la sécurité de la nation. Mais il ne s'agit là que d'une croyance. Et dans les faits, je l'ai dit, ce qui triomphe seulement dans une telle situation où la légalité a disparu, c'est la loi du plus fort. On s'imagine, le gouvernement, hein, qui exerce encore le pouvoir, s'imagine que la peine de mort est une solution juste et nécessaire, parce qu'il est persuadé qu'elle est dissuasive pour faire cesser les crimes. Or, comme va le montrer maintenant Beccaria, c'est là une illusion. Et donc, c'est dans un deuxième moment que Beccaria va montrer que la peine de mort n'a aucune efficacité dissuasive. Alors d'abord, ça c'est facile à montrer, l'histoire montre que la peine de mort n'a jamais empêché le crime. Je cite Beccaria très rapidement, hein, ligne 51. L'expérience de tous les siècles montre que le dernier supplice n'a jamais empêché des hommes résolus de nuire à la société. En outre, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la sévérité d'une peine qui la rend dissuasive. Et ici, Beccaria reprend un argument qui était déjà présent dans l'esprit des lois de Montesquieu. Je cite ici Beccaria, ligne 63-65. Ce n'est pas la sévérité des peines qui produit le plus d'effet sur l'esprit des hommes, mais sa durée. Alors, la peine de mort, c'est un spectacle qui frappe l'esprit par sa violence extrême. Et il faut se souvenir que la peine de mort était publique. Elle a été cachée, au fond, à partir du 19e siècle, au 20e siècle. Hein. Mais la dernière exécution publique en France, c'est en 1939. Je crois que c'est Eugène Weidmann qui a été exécuté en public, mais ça a posé beaucoup de problèmes. On y reviendra dans la discussion, si vous voulez. En tout cas, la peine de mort, c'est un spectacle qui frappe l'esprit par sa violence extrême, mais la crainte du châtiment qu'elle produit tend à s'effacer rapidement. La réclusion à perpétuité, accompagnée de travaux forcés, est une peine moins sévère, hein, que la peine de mort pour le criminel, bien sûr, mais elle est plus efficace en matière de dissuasion, car c'est un spectacle qui perdure et qui oblige l'homme libre, qui en est le spectateur, à faire retour sur lui-même et à se dire, regardez ce que dit Beccaria, il fait parler cet homme libre, ligne 80-82, c'est page 2. Hein. Moi aussi, je serai réduit pour longtemps à une condition misérable si je commets de semblables forfaits. Il apparaît ainsi à l'homme libre qu'il a tout à perdre en perdant sa liberté. Sa vie d'homme libre est une vie ouverte à l'avenir, C'est une vie tendue par l'espoir. Or, ce qu'il voit dans une vie condamnée à la réclusion, eh bien, ce sont tous ses espoirs brisés. Son imagination est alors beaucoup plus effrayée par la durée de la réclusion que par le bref instant du spectacle d'une exécution capitale. Une peine n'est pas efficace parce qu'elle produit et met en scène une souffrance extrême, mais parce qu'elle incite les hommes à comprendre que l'obéissance aux lois est plus avantageuse que le crime et qu'ils n'ont aucun intérêt à le commettre. Et comme le fait remarquer Beccaria, un fanatique, et on le sait aujourd'hui, un fanatique ne craint pas de braver la mort. Il préférera mourir jeune en martyr plutôt que d'être condamné à la réclusion à perpétuité. Enfin, dernier argument, la peine n'est pas seulement inutile, car inefficace en matière de dissuasion, c'est pire. Elle est nuisible en ce qu'elle est criminogène. Je cite Beccaria, ligne 208-209. La peine de mort est nuisible par l'exemple de la cruauté qu'elle donne. Loin d'être dissuasive, c'est une peine qui excite le sadisme et alimente la violence qu'elle prétend empêcher. Ainsi, la peine de mort est une pratique absurde. Il est absurde, en effet, et totalement contre-productif que l'État, qui réprouve et punit l'homicide, prétende détourner les citoyens de l'assassinat en ordonnant un assassinat public. Ligne 219. C'est l'expression de Beccaria. Le spectacle de cette peine produit des effets ambivalents, puisqu'en même temps qu'il produit la terreur, il flatte parfois le sadisme, il suscite une certaine compassion pour le condamné à mort. Et surtout, comme le montre Beccaria, il produit une répulsion invincible. C'est ligne 234, page 4. Il produit une répulsion invincible. Et plus haut, juste ligne, c'est page 3, là, comme le dit ici Beccaria, la vue du bourreau inspire indignation et mépris. Alors, pourquoi cette répulsion ? Cette répulsion exprime un sentiment profond que les hommes gardent au plus secret de leur âme, selon les mots de Beccaria. Ce sentiment leur donne la conviction, je cite, que leur vie n'est au pouvoir de personne, si ce n'est de la nécessité qui tient le monde entier sous son sceptre de fer. Je reprends ces belles formules. Ce sentiment donc leur donne la conviction que leur vie n'est au pouvoir de personne si ce n'est de la nécessité qui tient le monde entier sous son sceptre de fer, c'est-à-dire là où règnent des états despotiques. Donc la peine de mort est intimement rejetée par un sentiment inextinguible, irréductible, qui est présent en chaque homme. Mais c'est surtout sur le terrain social qu'on peut montrer le caractère nuisible et contre-productif de la peine de mort. Et Beccaria explique ainsi à la fin du paragraphe 28 que la peine de mort est un châtiment violent, utilisé par des États despotiques dans des sociétés profondément inégalitaires où les rapports sociaux sont violents, là où il y a une grande inégalité entre les riches et les pauvres. La peine de mort y est surtout appliquée aux pauvres, aux misérables, qui sont les hommes les plus susceptibles de commettre des crimes. Placés en effet devant la perspective d'une vie de misère, les plus démunis n'ont plus rien à perdre. il ne voit aucun intérêt à obéir à des lois qui sont injustes et n'éprouve aucune crainte à commettre des crimes. Et loin de les en dissuader, la peine de mort les incite au contraire à la rébellion. Alors, Beccaria illustre ici cette analyse par le procédé de la prosopopée, c'est-à-dire qu'il fait, parler le pauvre. Il fait parler un pauvre qui vole ou qui assassine. Regardez la ligne, les lignes 167-172, page 3. Hein, ligne 167-172. Voici comment il fait parler le pauvre. « Que sont, dirait-il, ces lois que je dois respecter et qui font une si grande différence entre le riche et moi ? Il me refuse un sou que je lui demande et en guise d'excuse m'exhorte à travailler, chose que lui-même ne saurait faire. Et ces lois, qui les a faites ?» Fin de citation. Donc, dans une société violente, les lois sont injustes et les châtiments sont violents. Parmi eux, bien sûr, il y a la peine capitale. Comme décrit Beccaria au début de son introduction, et je terminerai par cette citation, hein, regardez bien, c'est page 1, c'est le tout début, en haut à gauche, c'est le début de l'introduction de son livre. Donc je termine par ce début. Les lois les plus sages ont pour but naturel d'étendre à tous les hommes les avantages de l'existence et de combattre tout ce qui tend à les concentrer sur un petit nombre et à accumuler d'un côté la puissance et le bonheur, de l'autre la faiblesse et la misère. Voilà. Je suis à vos questions. Attends, vous êtes toujours là. Vous n'avez pas été pendu.
Mais pour Camus, est-ce qu'il n'a pas pris que le sujet de la répulsion par rapport à ce que son père avait assisté?
Ah, voilà, oui.
Est-ce qu'il n'a pas... Bon, est-ce qu'il devait connaître les textes?
Ah, bon, tout à fait, il le cite.
Moi, je l'ai lu, il a l'impression qu'il a pris la répulsion.
Alors, oui, absolument. Alors,
je suis trompé, hein.
Non, vous avez raison. Bon, Camus développe un discours un peu plus moral. Il a une argumentation d'ordre moral, beaucoup moins politique. Mais il cite vraiment Beccaria à plusieurs reprises, hein, lui aussi. Et c'est vrai que son texte, alors ce sont les réflexions sur la guillotine, son texte commence par le récit d'un épisode qui met en scène son père qu'il n'a pas connu, hein, puisqu'il est orphelin très vite. Son père est mort à la guerre 14. D'ailleurs, il a été enterré à Saint-Brieuc. Eh bien, donc le père de Camus avait été révolté en apprenant effectivement l'assassinat d'une petite fille, hein, par un cinglé, quoi. Et il avait tellement été révolté qu'il avait considéré même que la seule décapitation était encore une mort trop douce pour une telle crapule, hein. Et il avait tenu à assister à la décapitation de cet homme, de ce criminel. C'est ce que sa mère a raconté à Camus, parce que lui, évidemment, il était trop petit pour assister à cette scène. Et alors, donc son père, un petit matin, s'en alla pour assister à cette décapitation, et quand il revint chez lui, évidemment, il était traumatisé. Et il n'arrivait plus à parler et il se mit à vomir. C'est-à-dire qu'en fait, le spectacle de cette peine de mort produisait exactement l'effet inverse de ce qu'on pouvait penser. Au lieu de satisfaire son sentiment de vengeance, au contraire, ça produisit un effet de répulsion. Et en fait, ce que dit Camus, c'est ça, c'est que la peine de mort, finalement, elle réjouit les sadiques. Enfin, elle satisfait les sadiques, elle réveille des pulsions sadiques, elle encourage finalement la violence. Et en revanche, elle traumatise les braves gens. Et c'est vrai que Camus va commencer ses réflexions sur la guillotine par une description de la peine de mort. Et je dirais, parce qu'on est en 1957, hein, elle est encore pratiquée, hein, très largement, la peine de mort. Hein. Et puis, pendant la guerre d'Algérie, elle le sera très, très couramment. Et il montre qu'il y a une contradiction, parce que d'un côté, ceux qui sont partisans de la peine de mort vantent sa valeur exemplaire. Mais alors, si elle était vraiment exemplaire, ils exhiberaient la peine de mort. Hein. Ils inviteraient les enfants à assister à la peine de mort. Hein. Ils exécuteraient sur la place publique. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la peine de mort, elle est de plus en plus dissimulée, cachée. Hein, on la pratique le petit matin dans une prison. Hein, on la dérobe au regard public. Alors, si elle était si exemplaire, on serait fiers de l'exhiber. C'est vraiment pas le cas. Ce qui prouve que... Hein, voyez. Alors, c'est vrai qu'il commence là-dessus. Il commence par cette contradiction, par énoncer cette contradiction. Et à ce moment-là, il peut aussi, après, montrer qu'il s'agit là d'une peine qui n'a aucune efficacité dissuasive et qui flatte finalement, au fond, des désirs meurtriers, essentiellement. Hein. Voilà. Effectivement, donc, lui, il insiste beaucoup plus sur cet aspect-là des choses. Hein. C'est le problème moral qu'il aborde beaucoup plus, même si, évidemment, il y a une résonance politique de son texte. Hein. Mais c'est vrai qu'il s'inscrit complètement dans la lignée de Beccaria, sauf que lui, il a, disons, le recul d'un siècle supplémentaire. Au temps de Beccaria, les peines capitales étaient publiques. Hein, on est assisté hein, à l'exécution capitale. Bon, et puis, après, évidemment, au fur et à mesure... alors d'abord, ça se passait à Paris, place de l'Hôtel de Ville. Place des grèves, je crois, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ensuite, on a mis la guillotine à la lisière de Paris, à l'extérieur. Et puis enfin, on a fini par la mettre uniquement, par exécuter les prisonniers au petit matin seulement dans les prisons. La dernière exécution publique qui a eu lieu en France, c'est en 1938, c'est l'exécution d'Eugène Weinmann. Et il y avait des photographes. Hein, ils ont photographié la scène et ils ont diffusé les photos dans des journaux à grand tirage. Et ça a produit une émotion considérable, telle que le gouvernement de l'époque, enfin le président du conseil de l'époque, Édouard Daladier, décida de faire en sorte que désormais les exécutions ne se déroulent plus qu'en prison. Hein, voilà, hein, c'est comme ça que, au fond, elles sont devenues totalement cachées. Voilà. Alors, excusez-moi, je parlais un peu trop. Allez-y. Il n'y a jamais de terme de martyr. Le
terme de martyr qui a lié à tout ça, on va se retirer sans l'argumentaire supposé anti-peine de mort.
Oui.
C'est quelque chose qui va permettre de galvaniser les gens plutôt que de faire le sentiment inverse que l'État voulait procurer aux gens.
C'est une critique que vous faites de Beccaria ou de...
C'est une question.
Une question. Pourquoi il ne parle pas de martyr ?
Par exemple.
En fait, il veut... Indirectement, si, puisqu'il évoque allusivement le cas du fanatique, qui, lui, envisage volontiers le crime, parce qu'il est persuadé qu'il tue pour son Dieu, hein, qu'il exécute la justice divine, il est en mission sacrée. Donc, et sa mission passe par le meurtre des hérétiques, des impies, etc. Lui, il n'a pas peur, effectivement, de mourir en martyr, il est très fier. Hein, il s'imagine même après la mort récompensé par son Dieu. Bon, ça il le dit. Hein. Et alors, c'est justement, le discours de Beccaria est totalement aux antipodes de ce de cette espèce d'éloge de la justice divine. D'abord, la justice humaine, elle est uniquement là pour, en quelque sorte, permettre la cohésion sociale, pour satisfaire l'utilité commune. Elle ne peut se réclamer aucunement de Dieu. Ça, faut. Les choses sont très nettes, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, c'est un point très important dans son argumentation. Il sépare totalement, radicalement, la question de la justice humaine de la question de la justice divine. Alors, vous savez bien qu'au XVIIIe siècle, pensez à l'affaire Callas, les juges vont condamner à mort Jean Callas pour crime d'hérésie ou d'impiété, je ne sais plus exactement le mobile du crime, et pour des raisons religieuses en tout cas. Donc il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique. Alors là, dès qu'on parle de martyr, on est dans le religieux. Et là, effectivement, d'abord, déjà avant lui, Montesquieu est peut-être celui qui très clairement avait annoncé cette séparation, disant que seul Dieu est juge des consciences. Aucun homme ne peut s'arroger la place de Dieu. Donc ça, c'est très clair. Donc, alors, tous ceux qui, d'ailleurs, parlent de martyrs, qui veulent absolument venger Dieu, bon, alors, se permettent toutes les violences, évidemment, et toute peine qui prétend, effectivement, faire expier un homme, le faire payer son crime parce qu'il a désobéi à Dieu, eh bien, est une peine, tout simplement, despotique, violente. Une peine qui est un crime. C'est pas une peine, c'est un crime. Même si on allègue la justice divine, c'est un crime. Voilà, ça c'est clair, la séparation est très nette là-dessus. Voyez. Et c'est vrai que dès qu'on est dans l'éloge du martyr, bon, on est dans la cruauté. On est dans la cruauté. Pense à certains événements qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. Exactement ça. C'est ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe chez Beccaria, c'est un discours sur la peine qui est d'ordre économique. Bon, il faut du châtiment, oui. Bon. Mais on fera en sorte qu'il soit le. Qui produisent le moins de souffrance possible, y compris aux criminels à qui on applique cette peine. Voilà. Vous voyez, il se sépare de tout discours qui accorde une valeur à la souffrance. Voilà. Ça aussi, c'est extrêmement frappant. Oui ?
Le
peuple
va être empêché
de commettre un crime parce qu'il aura dans l'idée la durée. Oui, oui. Alors, je suis d'accord. C'est peut-être là le point qui mérite le plus de discussion. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire souffrir. Une peine, ça fait forcément souffrir. Mais ce ne sont pas les peines les plus violentes, les plus sévères, qui sont les plus efficaces. Parce qu'elles habituent à la violence. Elles habituent à la violence et bon, elles ne résolvent absolument rien. Ce sont les peines les plus douces qui sont les plus efficaces. Alors évidemment, condamner quelqu'un à la perpétuité et aux travaux forcés, c'est ce qu'il y a de plus sévère parmi les peines les plus douces, si vous voulez. Donc on est bien d'accord, c'est déjà une peine très forte. Mais c'est une peine plus efficace que la peine de mort. En tant que, évidemment, la peine de mort est plus sévère en sens où elle s'applique aux criminels. Par contre, elle paraîtra peut-être moins sévère au spectateur qui, lui, est obligé de se demander ce qui lui arriverait s'il commettait un crime, qui lui, effectivement, se dit, mais si moi aussi je commettais un crime, je serais condamné comme cet homme à la perpétuité, c'est une horreur pour moi, je ne peux pas l'envisager. Donc là, effectivement, il y a de la souffrance qui est infligée tout de même au criminel. On ne peut pas faire autrement. Simplement, on ne va pas faire, on ne va pas chercher à faire souffrir pour se faire souffrir. On va chercher l'efficacité dissuasive. Vous voyez ? Alors, c'est vrai qu'il y a des hommes qui vont penser que la réclusion à perpétuité, c'est horrible, c'est épouvantable. Autant mourir tout de suite. C'est vrai. Mais c'est plus efficace. Oui ? Un peu plus fort.
En cas d'erreur judiciaire, c'est quand même un peu confortable d'avoir du temps devant soi plutôt que plus.
Alors, là, c'est un argument... Oui, absolument. Là, je dis plus fort pour tout le monde. C'est un argument qui n'est pas présent dans le texte de Beccaria, qui sera plus tard utilisé pour condamner la peine de mort. Une des raisons, et d'ailleurs, c'est ce que dit Camus, par exemple, si la peine de mort est injuste et inacceptable, c'est aussi parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur judiciaire. Et la peine de mort est irréversible. Et c'est Robespierre qui va ajouter ce... Robespierre, c'est hein, remarquable. Eh bien, si vous voulez, effectivement, c'est ça. Ça, c'est un autre argument qui va être ajouté plus tard hein, à ce que disait Beccaria. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons-là que certains États des États-Unis ont décidé d'un moratoire. Ils n'ont pas aboli la peine de mort, hein, forcément, mais ils ont décidé de la suspendre. Parce qu'il y a eu des erreurs judiciaires. Et vous savez bien que quand on est pauvre dans certains États des États-Unis, et qu'on est noir en plus, et qu'on est très mal défendu, on a plus de chances que des Blancs de se retrouver électrocutés. Hein, il y a eu vraiment un certain nombre de... c'est là que la question de la peine de mort rejoint le problème social. Ouais. Là, on voit bien. Effectivement, il faudrait être sûr, absolument sûr, de la culpabilité d'un homme pour le tuer. Et encore même, avec les tests ADN, on dira, on peut maintenant. Oui, et même... Est-ce qu'on peut pour autant être quitte de la question de l'innocence et de la culpabilité ? Est-ce que on ne peut considérer le criminel, le coupable, bien sûr, il est responsable, mais indépendamment du contexte dans lequel il est placé ? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir aussi à la situation sociale, économique, etc., etc. ? Ben, ça ne veut pas dire l'excuser, mais même, considérer que certains... ne commettent pas de crime, peut-être parce qu'ils ont le luxe de ne pas être tentés d'en commettre. Non, je comprends bien votre réaction. Je ne suis pas en train de dire « Ah ben, j'ai de la chance. »
Il y a un autre voyant.
Je ne sais pas. Non, je ne suis pas en train. Mais c'est vrai que il faudrait être, si on voulait absolument pleinement désigner la responsabilité d'un homme, il faudrait, au fond, d'une certaine façon, être absolument sûr qu'on a affaire à une société qui lui a permis, à celui qui est devenu criminel, qui lui avait permis de ne pas, surtout pas, le devenir. Bon, c'est une manière de répondre.
Oui. Pour revenir à l'idée du martyr, qui a été évoquée tout à l'heure, et aussi... faire le croisement avec l'opinion publique.
Ouais.
Actuellement, vous savez qu'il y a des femmes qui ont été rapatriées de Syrie avec leurs enfants. Et là, c'est étonnant ce vent debout d'une partie de la société qui est prête à condamner des enfants qui n'ont rien commis.
Oui.
C'est une
mentalité magique. C'est-à-dire, on s'imagine que les enfants, que le crime, ça se transmet par hérédité.
La notion de prévention, tout
le monde. Oui, alors c'est ça. La notion de prévention, alors là, vous avez une bonne remarque, parce que la prévention, effectivement, pour Beccaria, c'est quelque chose de bien, puisqu'en fait, c'est ce qui permet d'éviter que le crime recommence. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement que l'argument de la prévention peut être retourné dans le sens d'une politique sécuritaire. C'est-à-dire, en fait, on voit dans chaque homme un criminel potentiel. Alors, on ne va pas le punir pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il pourrait faire. Vous voyez ? Alors là, ça devient redoutable. C'est-à-dire qu'il a aussi, c'est vrai, peut-être effectivement, un problème que Beccaria ne pouvait pas affronter. Mais dans nos sociétés aujourd'hui, le discours consiste moins à se prononcer sur la question de la peine que sur celui, au fond, de la, je dirais, de la prévention. Mais une prévention, en quelque sorte, considérée par des experts, hein, par des psychiatres, des psychologues, qui vont évaluer votre... dangerosité. Vous êtes dangereux. On a fait une expertise. Donc, effectivement, on estime que, bon, d'accord, vous avez commis une peine, ça y est, vous l'avez payée, mais peut-être qu'il faudrait peut-être en rajouter un peu, rajouter 3 ans de plus, pour éviter que vous ne recommenciez. Attention à la récidive. C'est ça, effectivement, qui est au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. Et c'est vrai que les enfants, puisque leurs parents étaient djihadistes, terroristes, ils sont sans demander d'ailleurs, alors que c'est complètement idiot parce que c'est bien au contraire en les laissant là-bas qu'ils peuvent devenir par éducation dangereux plutôt que de revenir et d'être réhabilité. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est aussi qu'on n'envisage pas une réhabilitation de l'être humain. On voit dans l'idée de réhabilitation l'idée d'une faiblesse. Vous êtes laxiste. Et on voudrait être sûr et certain qu'il ne puisse jamais avoir de crime. Donc la meilleure façon de régler le problème, c'est d'enfermer les gens. Ça, on est sûr, au moins. Et même d'enfermer tout le monde, parce que d'une certaine façon, qui peut dire que celui qui n'a pas encore commis de crime n'en commettra pas ? Vous voyez ? Donc c'est le risque zéro, quoi. Et ça, c'est une logique sécuritaire, qui effectivement n'est pas abordée dans notre texte.
Enfin, le risque zéro, c'est quand même actuellement quelque chose qui est prégnant dans notre organisation de société. On voudrait être à l'abri de tout. Risque zéro,
c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et la théorie du risque zéro est liberticide.
Alors, pour revenir à la peine de mort,
oui.
Au danger qu'elle soit attaquée et remise en question. Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce qu'elle est l'abolition de la peine de mort est en France dans la Constitution ?
Oui, tout à fait. Et puis donc, il y a des textes européens, il y a des textes internationaux.
D'accord,
non, c'est très difficile. Il faudrait vraiment se défaire de tout un tas de textes. C'est très difficile de revenir sur la peine de mort. Et non, c'est par contre c'est tout de même une idée qui flotte et l'idée est toujours étant que au fond. Les juges sont trop laxistes, etc. Et que, bon, c'est, de toute façon, on ne peut pas se prémunir contre le crime de façon absolue, je veux dire. Et à trop vouloir se prémunir contre le crime, on risque aussi d'attenter aux droits fondamentaux de l'être humain. C'est terrible, hein. On voudrait être sécurisé à tout prix. Comment ?
Et de perdre le peu de liberté.
Et voilà, c'est un fait. Donc, oui, on peut jamais être sécurisé. L'idée de sécurité peut être liberticide. Allez-y, oui.
On est tellement protégé en ce moment.
Protégé. Encadré. Oui. Oui, puis on intériorise. Une espèce d'angoisse et de peur, et on voit dans tout homme qui a un peu fauté, ça y est, un criminel en puissance. C'est vrai que c'est bon.
Oui, mais le fait qu'on soit encadré, enfin, moi je ne donne pas d'exemple de ma vie personnelle, mais parfois ça engage la transgression. Donc c'est pas.
Absolument, ça a des effets pervers. Voilà. Ça a des effets pervers, tout à fait.
Donc, je vous rassure, c'est pour les petites choses, mais puis en plus j'ai une certaine. J'ai un certain plaisir à transgresser
une voix. Non, mais ça pose des problèmes redoutables. Alors, vous avez encore d'autres questions ? Alors, avant de clore, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'association Philopop, association populaire de philosophie du Havre, donc sachez qu'il y a un petit prospectus ici qui la présente, et qu'il y a des séances au lycée Claude Monet avec un programme annuel, et qu'il y a une émission de radio tous les mois, les rendez-vous de Philopop, avec alors une question libre. Hein. Et bon, voilà. Faites connaître son existence. Je vous remercie de votre attention et bon week-end. Merci.